Vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne. Vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 70. Jules et Jacques, les tourbillons de la vie. Ah, chers amis, bonjour. Mais là, je vous vois, place Kléber, vous tournez en rond, vous faites demi-tour devant le Magmod, enfin les galeries Lafayette, et il n'y a plus rien. Et ce rien, je vous le donne, mais il n'y a plus rien. Alors, vous remontez vers la place Broglie, fini. Impossible au centre-ville à Strasbourg, impossible d'acheter un journal. Le Monde, Libération, Le Figaro, c'est fini. Strasbourg, c'est fini. C'était les journaux de mes premiers amours. Alors, il y a encore un marchand de tabac dans la petite rue entre Saint-Pierre-le-Jeune et Totosolde qui vend, mais quand il les a, les journaux. Et le journal, c'est notre borne pour marquer le temps. Et passer les bornes, on le sait, il n'y a plus de limite. Alors, sans limite et sans contrainte ni personne, c'est bien le thème de notre émission, vous l'avez bien connu, qui court après le temps perdu et le jeu du hasard. Et notre invité est quelqu'un qui est un spécialiste de l'arrêt du temps. Arrêt A-2-R-E, accent aigu, T, bien sûr. Donc l'arrêt du temps, bien oui, il est journaliste. Bonjour Jacques Fortier.
Bonjour.
Salut Jacques, cher collègue, hein, on se connaît depuis 30 ans, 40
ans.
Ma foi. Et alors, vous n'êtes pas là pour me raconter comment, juste avant le bouclage du journal, hein, 10 minutes avant, c'est la course aux nouvelles alsaciennes, aux dernières nouvelles, enfin toutes les organes où vous avez travaillé, vous écrivez plus vite que votre ombre et vous inventez la réalité parce que vous n'avez pas le temps de chercher dans la documentation. Et donc, le lendemain, comme ça a apparu dans le journal, eh bien, l'invention de la réalité, elle paraît très vraie, elle est vraie. Et alors, vous êtes là parce que, Jacques, ce n'est pas votre vrai nom. Votre vrai nom, c'est Jules. Oui, Jules. Alors Jules est Hercule, Cyprien est musicien, maman somnambule, papa ne fait rien. Mais là, ce Jules, il est flic.
Détective.
Détective. Alors je l'avais marqué hein, sur le papier. Hein,
incontestablement.
Voilà. Donc Jules est détective. Et donc, enfin, quand un flic est noble, on dit détective. Donc c'est un monsieur qui ne laisse aucun indice au jeu du hasard. Pauvre Marivaux, ni rien au temps perdu, pauvre Marcel Proust. Et Jules Meyer est un personnage qui fait des enquêtes rhénanes. Anne, i-an. Donc, et c'est au bord du Rhin. Et pour raconter ces histoires qui plongent souvent dans le début du 19e siècle, Jacques Fortier, ou même du 20e siècle.
Du 20e siècle.
Jacques Fortier, vous lisez les journaux de l'époque. Hein, on retombe sur nos pieds, là. Et vous y trouvez, dans ces moments de temps arrêtés, le nom de l'assassin. Et c'est bien comme cela dans les romans policiers. Alors, les vieux journaux, Jacques, c'est vraiment passionnant?
Ah, les vieux journaux, c'est passionnant parce que, d'abord, c'est accessible depuis quelques années, beaucoup plus facilement qu'à d'autres époques. J'ai connu l'époque où, aux dernières nouvelles d'Alsace, ou aux nouvelles alsaciennes, deux maisons où j'ai travaillé, merci de l'avoir rappelé, il fallait monter dans les combles pour récupérer les collections anciennes, demander à un ou une documentaliste de trouver les numéros de telle année. Et puis, quand les années étaient lointaines, il fallait plonger dans les caves où il y avait encore des journaux, ou alors il fallait passer à la Bibliothèque nationale universitaire. Aujourd'hui, tous ces journaux sont sur le net. Tous ces journaux sont sur le net, soit par le biais de la BNU et d'un serveur qui s'appelle Numistral, soit par le biais de la Bibliothèque nationale de France, un serveur qui s'appelle Gallica. Et à condition de pouvoir lire la langue, car c'est un des problèmes en Alsace, c'est que la presse des entre-deux-guerres est très largement germanophone, mais à condition de pouvoir lire les langues.
Édition bilingue, quand même.
Voilà, exactement.
Mais on pas a toujours des traductions
pas fidèles. Toujours et pas surtout. Pas oui. Toujours et pas surtout. Mais on a accès à la presse très largement et directement au bout de son clavier. Donc ça, pour mon travail, qui est de mon travail actuel, qui est un
travail de détective, loisir,
voilà, qui est celui d'écrire des romans policiers historiques régionaux, chaque mot a son importance, mais le mot historique est peut-être celui-là qui prend le plus d'acuité, eh ben, il faut fouiller le passé. fouiller le passé pour que le paysage dans lequel j'installe mon petit détective, Jules Meyer, qui est celui en gros du Strasbourg et de l'Alsace d'il y a un siècle, soit vraisemblable, crédible, le plus proche possible de ce que fut la réalité de l'époque. Or, la distance à peu près d'un siècle, Strasbourg est ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Donc, vous avez des bâtiments chercher... en plus, des bâtiments en moins.
Oui, alors là, vous cherchez quelque chose de très précis et vous le trouvez dans les journaux.
Alors, par exemple, trouver dans les journaux telle ou telle enquête policière qui s'est faite à l'époque. Une fois que j'ai choisi mon enquête, que je connais la date de la prochaine enquête de Jules Meyer...
Le thème.
Plonger dans les journaux de l'époque pour retrouver l'ambiance, savoir de quoi les gens parlaient, ce qui était dans leurs préoccupations, dans leur tête à l'époque, est très important. Et puis ça peut l'être aussi pour trouver précisément où était telle ou telle personne, où était tel ou tel bâtiment, ce qui se passait à telle époque.
Alors là, on a évoqué la numérisation des journaux. Moi, j'y vois quelque chose de très restrictif. Moi, à la maison, j'ai des piles de journaux partout et tout, parce que quand on cherche quelque chose... dans un journal papier, par exemple le nom de l'assassin qui s'est passé en 1913 et tout. On commence à tourner les pages des journaux de tout le mois et on tombe sur des choses auxquelles on ne pensait absolument pas. Et c'est ça qui est formidable. Par exemple, une publicité, alors ça c'était plus dans les années 50, Marx habille la femme forte.
Forte, je me souviens
c'était
de cela.
C'était génial,
oui, tout à fait.
Ça. Voilà. Et moi je cherchais le nom d'un vieux cinéma et je tombe sur Marx habille la femme forte, je me dis, c'est peut-être l'ancêtre des Marx Brothers. Bon, c'est faux, puisqu'il s'appelait Marx et tout. Mais voilà, donc on tombe sur autre chose. Alors que sur Internet, on clique sur un mot.
Pas toujours.
Et on ne trouve que ce qu'il y a autour du mot.
Sur Gallica ou sur du Mistral, vous pouvez feuilleter les journaux. Page entière, feuillet entier, cahier entier.
Oui, mais on n'a pas l'odeur du vieux papier.
Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Et parfois, d'ailleurs, les pages sont difficiles à lire parce que simplement, numériser des journaux anciens, parfois tous les exemplaires ne sont pas propres nickel comme il faudrait. Mais c'est une façon de se mettre dans l'ambiance d'une époque. Je prends un exemple, par exemple. J'ai écrit...
Est-ce que c'est d'abord la lecture du journal qui fait que vous trouvez un thème? Ou vous avez un thème en tête, c'est par exemple 1918, le soviet à Strasbourg, et ensuite vous cherchez des choses pour alimenter votre
sujet. L'idée vient d'abord, et notamment pour mes premiers livres, l'idée est venue d'abord. Maintenant, l'idée vient souvent d'autres, parce que je suis en train d'écrire le 10e de ces romans policiers, où Jules Meyer tient un rôle clé. Alors,
c'est pas les 10 petits nègres, c'est les 10 petits fortiers.
Ils étaient 10 maintenant. On me fournit, d'autres viennent me fournir des idées. Me disent, ce serait peut-être bien que tu t'intéresses à ça ou à ça. Et parfois, elles sont bonnes. Et même parfois, je les utilise.
Oui.
Pour mon plus récent roman, publié au printemps dernier, Le Maître des Horloges, l'idée primitive venait de l'évêque de Strasbourg.
Ah oui.
Qui me dit, on a retrouvé une pièce importante qui fut un prélude à la construction
c'est de... C'est pas le père de Tommy Ungerer.
Non. En l'occurrence, il s'agissait de la redécouverte d'un mécanisme d'horlogerie important qui avait permis à Jean-Baptiste Schwilger. Jean-Baptiste Schwilger, c'est le restaurateur de l'horloge astronomique.
Qui a eu le père de Tommy Ungerer comme élève,
siècle,
c'est ça
qui, le père de Tommy Ungerer a repris l'horlogerie que Schwilger avait fondée. Et en l'occurrence, Jean-Baptiste Schwilger avait fabriqué une pièce d'horlogerie exceptionnelle qui permettait de calculer toute seule, elle-même, la date de Pâques de chaque année.
Alors moi, si je vous donne une idée...
Mobile, n'est-ce pas?
Mobile, oui.
Et donc l'évêque me signale la redécouverte de ce prototype de compute. Et sachant cela, me dit, vous qui aimez raconter des histoires, Jacques Fortier, est-ce que ça n'est pas une pour vous?
Alors Jacques Fortier, j'ai une histoire pour vous, c'est mai 68 à Strasbourg.
Alors là, je ne suis pas dans mes dates. Je ne suis pas dans mes dates parce que mon détective est né en 1898.
Oui, mais ça pourrait être le petit-fils.
Et pour l'instant la prochaine enquête, celle que je suis en train de préparer, se passe au début de l'année 1937.
D'accord.
Donc je suis plongé dans la presse du début de l'année 1937.
Qui est déjà une période où le national-socialisme déteint en Alsace.
Ah, c'est une période sombre, c'est une période où les bagarres de sang qui se passent entre ce qu'on appelait les bolcheviks et les nazis de l'autre côté du Rhin ne sont pas sans faire des vagues ici.
Oui.
Et chacun a là-dessus son idée.
Oui, célèbre massacre Place du Corbeau.
Oui, il y a un certain nombre de troubles comme ça qui se passent. En même temps, c'est le moment où l'autonomisme alsacien, enfin une frange de l'autonomisme alsacien, prend un vilain virage. oui. justement parce qu'il a l'impression avec que l'Allemagne est une meilleure perspective pour lui que la France
avec
de l'époque.
Avec un maire de Strasbourg que Strasbourg veut oublier.
Ça, bien sûr. Voilà. Donc on est dans une époque plus noire, plus proche de la guerre que celui de mes romans précédents. Oui. Alors puisque la dernière fois, j'avais laissé Jules en 1931. Donc je vais faire un saut de 6 ans, et ce qui est un saut vers une page d'histoire qui est plus proche de nous, c'est une façon de le dire, et plus proche de nous à l'âge que nous avons.
Et avant la guerre de 14-18, bon, 1913 par exemple, est-ce que c'était une année frivole, une année allemande hein, encore, mais est-ce qu'il y avait une insouciance ou est-ce qu'on se préparait déjà au conflit ?
Je ne pense pas, je ne suis pas historien, hein, je pille les historiens, enfin, oui. je leur emprunte
mais on
beaucoup.
On est tous des voleurs les journalistes.
voilà, mais je ne pense pas que l'ambiance en 13 était aussi noire qu'elle a été en 37, 38, ah, oui. 39. Bien sûr, il y a l'affaire de Saverne. Il y a cette espèce d'impression qu'ont les Alsaciens en 13 d'être des sous-Allemands, d'être considérés comme des sous-citoyens, malgré la Constitution de 1911, malgré ce genre de choses qui ont été octroyées. Mais rien que le mot d'octroyer.
C'est intéressant d'utiliser ce mot sous-Allemand parce voilà. qu'il éclaire beaucoup aussi l'atmosphère ou en tout cas l'état d'esprit des Alsaciens qui s'engagent. Parce que leurs parents ou leurs grands-parents étaient allemands dans la Wehrmacht ou même dans les SS, et puis ceux qui ont été incorporés de force et qui aussi qui faisaient du zèle, on le sait, mais c'est un peu tabou, parce qu'ils étaient considérés comme des sous-allemands parmi leurs camarades de section.
On échappe à mon époque. Oui, Jules Meyer n'est pas encore arrivé au second conflit mondial.
Il y arrivera.
Étant né en 1898, il a de fortes chances d'y arriver. Il a même des chances, peut-être même un jour, de vivre 68. Et peut-être même un jour de vous rencontrer ou de me rencontrer.
D'accord. Alors, moi, je dis qu'il faut une heure ou une demi-heure en allant vite pour lire un journal en entier. Si on est un petit peu malin, on se dit « je ne vais pas lire que mes lectures habituelles, Le Monde, Libération ou même Le Figaro, qui a des pages diplomatiques très intéressantes. On va commencer à lire d'autres journaux. » Est-ce qu'on peut passer 2-3 heures par jour à lire les journaux simplement pour s'informer, pas seulement parce qu'on est en train d'écrire un roman, mais parce qu'on cherche des choses, on cherche une ambiance.
On a parfois, quand on plonge dans les journaux anciens, tendance à se noyer un peu. Et c'est un peu ça l'inquiétude. Oublier ce qu'on est en train de chercher pour
ça arrive sur Internet
trouver,
aussi.
Bien entendu, des pépites ailleurs. Oui. Et c'est pas, quand je parle de recherche d'archives, il n'y a pas seulement les journaux aussi. Il y a aussi les documents d'époque. Je vais vous prendre un exemple. J'ai écrit un roman qui s'appelle « Il est minuit, Monsieur Meyer ». Dans ce roman, j'invite le docteur Albert Schweitzer, le titre est fait allusion bien sûr, à venir dans le récit que je raconte.
Bon. Alors je fais juste une petite parenthèse, un petit scoop, parce que j'ai eu l'honneur de travailler avec lui au Parlement européen. Et il y a un monsieur qui est en train d'écrire l'une de ses nombreuses biographies qui s'appellera « Il est minuit, docteur Kouchner ». Fermez la parenthèse.
Voilà, la formule appartenant d'ailleurs, « Rendre à César ce qui est à César », appartient à Gilbert Cesbron, qui a titré ainsi une pièce de théâtre consacrée à Schweitzer, qui ensuite est devenue un film l'année suivante, en 1952. Donc, sur Schweitzer, invitez Schweitzer, vous en faites ni le criminel, ni la victime, bien entendu. Ça, c'est par raccord avec l'histoire. Donc, j'en fais le client. Le client, celui qui se trouve, au début de son second séjour au Gabon, 1924, confronté à une mort inexplicable, en tout cas inexpliquée, et qui se souvient tout à coup qu'il avait rencontré en Alsace un petit détective plutôt malin qui pourrait peut-être lui être précieux en ce moment.
Et donc Jules Meyer va aller sur une...
Et Jules Meyer va prendre le bateau, à l'époque
c'était pirogue.
Trois semaines de vapeur, de steamer, comme on disait à l'époque, de Bordeaux à Port-Gentil, puis remonter pendant 2 jours et demi le fleuve Ogowé pour arriver enfin à Lambaréné. Alors, sur Schweitzer, que beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui ont connu. Schweitzer est mort en 65. Oui. Il faut être juste.
Et il y a une vingtaine de bouquins sur lui.
Vous avez des biographies innombrables sur Schweitzer. Mais quand vous cherchez Schweitzer pendant quelques semaines de 1924, alors là, ça commence à être le désert. Mais pas vraiment le désert. On cherche d'abord sur Internet, puis ensuite on se rend compte que Schweitzer, chaque année, écrivait une sorte de journal, pas au jour le jour, il n'avait pas le temps, mais de temps en temps des petites notations comme ça sur ce qui lui arrivait, et qu'en fin d'année, il regroupait tout ça, qu'il relisait et qu'il l'envoyait à Oberlin, à Strasbourg, pour qu'on édite un fascicule. Ce fascicule était distribué à ses partenaires et notamment à ses donateurs. C'est important. Le fascicule de 24, cherchez sur Internet, vous le trouvez, il y a une librairie, enfin une université, je crois que c'est Toulouse, qui l'a mis en ligne. Et puis vous allez à la médiathèque protestante ici, ils l'ont. Ils l'ont, l'exemplaire de 24. Vous le feuilletez, vous y trouvez plein d'anecdotes. Puis, vous y trouvez l'état d'esprit de cet homme-là, à cette époque-là. Il a 48 ans, alors. Et c'est une archive vous qui vous intéressez aux questions de mémoire, qui est précieuse, parce qu'on a ce que pensait réellement la personne en question en 1924, à l'époque où je parle. Alors, des anecdotes que je vais emprunter, que je vais glisser dans mon livre, mais en même temps, un état d'esprit général de quelqu'un qui est un véritable personnage historique et que je peux confronter ensuite à mon personnage de papier, à mon petit détective.
Donc, tout ce qu'on invente est vrai, en fait.
C'est enfin, une façon
tout ce
de
qu'on
dire.
Trouve, oui, c'est pas moi, c'est Flaubert. Mais...
Et ensuite, oui. Vous vous rendez compte, dans les écrits de Schweitzer, qu'il n'était pas tout seul en 24 quand il repart. Parce qu'il faut dire qu'il y était entre 13 et 17.
Il avait des copines
Non, pas du tout. Il n'est pas reparti avec sa femme, puisque la petite Réna, leur fille unique, est née entre-temps. Et Réna reste avec sa mère en Alsace, avec Hélène Breslau, reste en Alsace. Mais il part avec un jeune étudiant anglais, dont il a rencontré les parents à Londres pendant qu'il faisait des concerts d'orgue pour ramasser de l'argent, pour repartir, car c'était bien son but, rembourser ses dettes et repartir. Et cet étudiant anglais, sa mère lui en parle et dit « Mon gamin, il a 20 ans, et il sait pas trop quoi, 18 ans je crois même à l'époque, et il sait pas trop quoi faire de sa vie. » Et Schweitzer, bonhomme, dit « Je l'emmène. Je l'emmène comme aujourd'hui on ferait un service volontaire européen ou une année Erasmus pour essayer de se débrouiller un peu. » Et il emmène ce type qui s'appelle Noël Gillespie.
Et il a écrit ses mémoires.
Écrit des lettres à sa mère. Et parce que Schweitzer dit, il a emporté deux trucs, un appareil photo et une machine à écrire. Qu'est-ce qu'il a fait de la machine à écrire? Il a écrit des lettres à sa mère. Ces lettres à sa mère, vous cherchez et vous les trouvez. Vous les trouvez parce que ce gars-là est devenu plus tard anesthésiste. A fait cadeau de ses archives, on y revient, à une université dans le Wisconsin, aux États-Unis, où il a fini sa vie. D'ailleurs, le choix de devenir anesthésiste a peut-être été dicté par le fait d'avoir rencontré un grand docteur. Bon, allons savoir. Et ces lettres, notamment, vous avez la série des lettres qu'il envoie à sa mère pendant ces quelques mois de 24, où il est à côté de Schweitzer, d'abord sur le bateau, ensuite au Cameroun, ensuite au Gabon, et tout. Et il dit des choses qui ne sont pas tout à fait celles que raconte Schweitzer. Il dit, Schweitzer, parfois il tire la gueule, il ne parle pas pendant trois jours, il est grognon, il n'est pas bien, etc. Et il raconte ce qu'un gars de 20 ans peut sentir avec un type de 48 ans, qui est assez impressionnant, qui a sa façon de vivre, qui a une sacrée caboche d'Alsacien, comme il le dit lui-même, Schweitzer, en parle lui-même. Et c'est passionnant. Et là-dedans, je peux puiser aussi, pour mon livre,
pour
un certain nombre d'éléments,
et...
pour créer l'ambiance. Et quand Jules Meyer débarque du bateau, un port gentil, qui c'est qui vient l'accueillir? Pas Schweitzer, il n'a pas le temps.
Non,
c'est le jeune Noël Gillespie qui vient l'accueillir. Voilà. Ils passent deux jours et demi ensemble, ils sympathisent, et puis deux jours et demi ensemble après, au bout de deux jours et demi, ils arrivent au bord d'un embarcadère, et on monte un grand type qui a un casque colonial, le pantalon quasiment jusqu'aux aisselles,
un petit peu comme ça.
Et les poings sur les hanches, et qui l'accueille, et qui dit, bienvenue
Jacques
Monsieur Meyer, c'est Albert
Est-ce
Schweitzer.
Est-ce qu'on peut dire que le temps... C'est, en fait, ce sont des boîtes qui sont empilées, comme ça.
Des boîtes qui s'encastrent un peu. C'est un jeu de Tetris. Jeu de Tetris, un peu, le temps. Et c'est vrai que quelqu'un m'a un jour posé la question sur ce livre. Êtes-vous déjà allé à l'Ambaréné, M. Fortier? J'ai dit non, ça c'est pas fait. Ça aurait pu, parce que pour un journaliste alsacien, ça peut se faire. Mais ça c'est pas fait. Et pourtant, je lui dis, j'ai l'impression d'y avoir été il y a 100 ans. Parce que j'ai écrit pendant plusieurs mois un livre entouré de photos de l'époque, prise notamment par des missionnaires protestants, entouré de textes de l'époque, ou à l'époque où Lambaréné, Andende et les autres villages étaient des petites bourgades dont on comptait les déplacements en heure de pirogue. Aujourd'hui, c'est deux grands ponts. Lambaréné, c'est une des plus grandes villes du Gabon. Mais donc, le Lambaréné de Schweitzer, finalement, je le connais un peu. Le Lambaréné d'aujourd'hui, non, je ne le connais pas. Voilà.
Oui, mais alors, quand même, est-ce que le... hasard peut encore jouer un rôle? Est-ce que tout d'un coup, on ne peut pas découvrir que Albert Schweitzer n'était pas le personnage aussi sympathique que la postérité veut garder parce qu'on aime bien glorifier les gens et les mettre au panthéon? Vous cliquez sur un mot et vous avez tous les articles sur ce mot. Mais si vous tournez les pages du journal, donc à la rubrique faits divers, vous allez trouver des choses tout à fait différentes. Alors ça peut être une démarche un peu... je ne sais pas moi, lacanienne ou Barthes ou je ne sais pas quoi, mais enfin, vous avez 10 faits divers différents qui peuvent alimenter cette ambiance, mais qui n'ont strictement rien à voir avec. Et qu'est-ce que ça peut modifier un petit peu votre inspiration?
Vous me rappelez tout à fait que j'ai par exemple utilisé, il y a eu deux condamnations à mort entre les deux guerres. C'est la première attaque de la poste de Strasbourg. Pas l'attaque des années 70, le hold-up que nous avons connu les uns les autres, mais une première attaque de la Poste qui se fait, puisqu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de billets de banque qui circulaient directement par la Poste, la paye arrivait comme ça. Et en feuilletant les journaux de l'époque d'un de mes romans, je trouve un certain nombre d'allusions à cette affaire. Je remonte là-dessus, et finalement, dans l'un des chapitres de ce livre, Jules Meyer joue un petit rôle dans l'enquête qui permettra de résoudre l'affaire de la Poste de Strasbourg. Alors, c'est périphérique, mais c'est effectivement en nageant dans les pages de journaux sur Internet que je me suis dit, ça serait une bonne idée. Et vous retrouvez des photos. Vous retrouvez des photos parce qu'à l'époque, on fait des photos des condamnés à mort. Il y a une photo où on voit passer les deux condamnés à mort, place Broglie, encadrés par des uniformes, et devant la foule qui les regarde et qui regarde ces deux hommes dont elle sait qu'ils vont mourir. Et qu'ils vont mourir parce qu'ils ont commis un délit grave. Ils avaient tué, en l'occurrence.
Alors, Jacques Meyer ou Jacques Fortier, ou Jules Fortier, vous êtes, mais avec beaucoup de noblesse, un imposteur, d'une certaine façon.
Hein. Alors, tout romancier est un imposteur.
Alors justement, je voulais citer William Faulkner, qui écrivait il écrivait des romans comme s'il était journaliste, et non pas un journaliste qui écrit des romans. Et il s'inventait des exploits, qui en fait étaient des mensonges. Il a raconté qu'il a été blessé et boité pendant la guerre de 14-18 dans un avion qui est tombé et tout, alors qu'il avait fini sa formation, que la guerre était terminée. Donc, il a écrit, Faulkner, une phrase, c'est pour ça que je le cite, « Le passé ne meurt jamais, il n'est même pas passé. Nous travaillons tous dans des toiles tissées bien avant notre naissance, des toiles d'hérédité et d'environnement, de désirs et de conséquences, d'histoire et d'éternité. » Une petite phrase qu'on pourrait dire pleine de bruit et de fureur, bon ça c'est une allusion à Shakespeare, « Jacques Fortier, pouvez-vous dire Jules Meyer ?» C'est moi, comme Flaubert avec
Madame Bovary.
Qui ne l'a jamais dit.
Alors les dates,
on l'a inventé.
C'est apocryphe.
C'est apocryphe. Alors, est-ce que le personnage, mais aussi le journaliste réel, est-ce qu'il peut payer les fautes de ses ancêtres? On sait que ça se transmet, il y a eu des sociologues qui ont travaillé là-dessus.
Une sorte de péché originel, en l'occurrence. Voilà. Alors, est-ce que Jules Meyer, c'est moi?
Est-ce que vous avez un arrière-grand-père qui a été un assassin ou un détective?
Je crois pas quand je regarde... Non, je ne crois pas. En revanche, sur la question Jules Meyer, c'est moi, les dates ne concordent pas, déjà. Mais en revanche, c'est clair qu'on met toujours un peu de soi-même dans un personnage, surtout un personnage récurrent, qu'on commence à bien aimer, qui est pour soi un bon camarade. Et peut-être qu'on lui pose des questions qu'on n'ose pas se poser à soi-même. Ça peut arriver parfois dans l'écriture. Même si la forme du roman policier est une forme légère, une forme d'évasion, une forme sympathique, mais en même temps, ça reste un des segments de la littérature, et la littérature, c'est toujours le questionnement de soi et de l'humain.
C'est-à-dire que Jacques Fortier peut trouver des fantômes dans les, dans les vieux journaux, parce que le fantôme, c'est l'arrêt du temps aussi, puisqu'il un fantôme ne meurt pas. Enfin, les statues meurent aussi, mais pas les fantômes. Et... le fantôme, ce serait un peu votre propre vie passée, ou alors c'est les fantômes de votre vie d'adulte que vous retrouvez dans les années précédentes. Non, c'est pas une thérapie d'écrire un roman. C'est ça que je veux poser comme question.
Ça peut l'être pour certains. Oui. En l'occurrence, je ne crois pas que ce le soit pour moi. Mais c'est une exploration de soi-même, bien entendu. Parce que qu'est-ce qui fait que je vais choisir plutôt telle ou telle histoire? Qu'est-ce qui fait que je vais la raconter de telle façon? Qu'est-ce qui fait que j'ajoute petit à petit des traits de caractère à un personnage qui était très, très frêle, très, 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 très fragile dans les premières histoires, et puis qui prend un peu d'épaisseur en même temps qu'il prend de l'âge? Prochain roman, 37, il aura 39 ans, il approche quand même de l'âge mûr. En l'occurrence, sa petite famille s'agrandit, il y a un certain nombre de choses qui sont racontées comme ça. Il y a peut-être effectivement une exploration de moi-même, mais à grande distance.
C'est une
difficile
sorte
à repérer. Mais il y a aussi une complicité avec d'autres qui sont attachés à cette époque. Combien de gens sont venus me montrer des photos de leur grand-père qui, comme Jules Meyer, avait été dans la Kaiserliche Marine à Kiel, avec le bonnet de marin et tout, etc., et qui était revenu en 18, comme le fait Jules Meyer, et qui dit, tu vois, Jules Meyer, c'est un peu mon grand-père. Alors là, vous touchez quelque chose. Et c'est d'ailleurs assez émouvant quand quelqu'un vous l'apporte. Oui. Plusieurs personnes l'ont fait. Et plusieurs personnes retrouvent à travers cette vie de Jules Meyer dans l'entre-deux-guerres, ce qui a été leur vie pour les plus anciens, ce qui a été la vie de leurs parents ou de leurs grands-parents pour les plus jeunes. Et ça, c'est très touchant.
Il y a une sorte d'inconscience transgénérationnelle comme cela. Les gens qui vous disent, c'est moi, je sais d'expérience avoir inventé une histoire
J'ai aussi tendu un petit peu une...
Et les gens qui me disent, oui, comment vous le savez, c'est un truc qui m'est passé dans ma famille, quoi.
J'ai aussi tendu aussi une petite perche en l'appelant Meyer, qui est quand même le patronyme le plus répandu entre vos gérins, et Jules, qui était un prénom très courant à l'époque, beaucoup moins fréquent aujourd'hui. Pour vous donner un exemple, dans l'annuaire de la ville de Strasbourg, voilà encore une archive, qui se trouve encore sur Internet, numérisée, année après année, vous avez, grâce au fichier domiciliaire, une archive importante du droit local, grâce au fichier domiciliaire, vous avez immeuble par immeuble les habitants qui y sont, les propriétaires et les locataires occupants quand il y a des locataires.
Ça a pu
vous savez leur profession, bien entendu, vous avez leur profession. Pour un détective, c'est important. Pour le romancier qui écrit la vie du détective, ça l'est aussi.
Et pour le flic
quand
qui travaille pour la Gestapo.
Bien entendu, mais on n'était peut-être pas dans cet esprit-là à l'époque. Quoique là, on s'approche de la guerre. Et pour dire, en 1931, j'ai cherché Jules Meyer dans l'annuaire de la ville de Strasbourg.
Et il y en avait.
Il y en a huit. Il y en a huit qui ont des professions différentes. Mais il n'y a pas de détective. Ah. Et là, tout à coup, vous vous sentez un peu désemparé. Finalement, comment ça se fait? Elle est là, l'imposture. Voilà. C'est là qu'on se rend compte qu'on est un imposteur.
Alors, vous avez été... alors, c'est un péché, mais ce n'est pas un péché mortel. Vous avez été chef de rubrique religion.
Je me suis occupé de religion pendant 19 ans.
Alors, dans la Bible, on peut lire « Les parents ont mangé des raisins verts et les enfants
ont les dents agacées.
Non, mais les enfants en ont souffert pendant 3 ou 4 générations.
On les dents agacées, oui, ce qui signifie effectivement que...
Alors, expliquez un petit peu...
Ah, je ne suis pas exégète. Ah. Je ne suis pas exégète, mais je pense que dans la pensée...
Alors, j'en ai un autre. « Je est un autre » d'Arthur Rimbaud.
Oui.
Alors, voilà. Est-ce que le détective peut dire ça? Voilà, finalement, il va retrouver sa propre... vie antérieure. Je cherche un lien pour expliquer comment le passé se répète. La 13e heure est à nouveau la première, l'éternel recommencement.
Et le cycle du temps.
Oui.
En construisant la vie d'un personnage de papier, à partir de recherches sur les vrais papiers, sur les archives, c'est vrai qu'on parle un peu de soi, c'est vrai qu'on parle de son époque, et c'est vrai qu'on parle ce que j'allais appeler l'encastrement des époques, comment une époque enfante la suivante. Et les gens sont très sensibles à ça.
Quel autre métier auriez-vous aimé faire que journaliste?
Que journaliste ou écrivain?
Oui. L'un des 8 métiers des Jules Meyer qui ont réellement existé.
Je crois qu'il y en avait un qui était ferronnier, un autre qui... je ne me souviens plus, je n'ai pas regardé la liste avant de venir.
Ça serait intéressant.
Mais c'était, il y en avait qui étaient ouvriers, je ne suis aucun de ces Jules Meyer-là. Jules Meyer était peut-être dissimulé sous une autre étiquette que la sienne.
Ce serait un joli roman, ça, que d'écrire Jules Meyer au pluriel. Et de raconter la vie...
D'inventer l'histoire des 8 autres Jules Meyer, des 8 vrais. Des 8 vrais.
Inventer.
Des 8 vrais qui vivaient au temps du faux. C'est une possibilité.
Donc le temps, à ce moment-là, est inventé. C'était l'épisode numéro 70 de « Vous l'avez bien connu, Jules et Jacques, les tourbillons de la vie ». Un petit clin d'œil à Jeanne Moreau et François Truffaut. Aujourd'hui, la fascination des vieux journaux avec Jacques Fortier en enquêteur qui va piano, piano, et puis domino et moineau, et romans régionaux. Vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi à la technique Thomas Marinelli. Et mon nom est, alors je sors ma loupe de détective, mon nom est Ambroise Perrin.